Bienvenue à Accès MRC. Je m'appelle Vanessa Girard et dans cette émission, je reçois des personnes significatives de la MRC de Maria Chapdelaine. Et j'ai avec moi aujourd'hui le directeur du Centre de services scolaires du Pays des Bleuets, M. Patrice Boivin. Bonjour.
Oui, bonjour. Ça fait plaisir d'être ici.
Bien oui, merci de passer nous jaser aujourd'hui. C'est la première fois que je vous reçois à Accès MRC. Ça fait quand même un bout de temps que vous êtes en poste, là.
Oui, ça a fait un an il n'y a pas longtemps.
Voilà, on vient de fêter voilà. Presque vos un an.
Oui.
Une arrivée dans un contexte particulier.
Oui, oui, oui. D'un contexte particulier, effectivement. Alors qu'on pensait à ce moment-là être sur les derniers kilomètres ou les derniers milles de la pandémie. Puis finalement, ben, on a eu ce qu'on connaît, là, quand même une fin de quatrième vague, une cinquième vague qui est arrivée. Mm-hmm. Donc, on a dû, effectivement, là, retravailler un peu tous les aspects qu'on a développés pendant la pandémie. Et puis, et aussi une situation qu'on a mieux documentée, une situation là, de pénurie de main-d'œuvre en plus qui vient compliquer un peu la situation.
On aura l'occasion de revenir sur ces sujets-là un peu plus tard dans l'émission, mais je voulais d'abord commencer en parlant de vous, que les auditeurs puissent apprendre à vous connaître. Donc, racontez-nous un peu votre parcours, là. Comment vous êtes arrivé à ce poste-là?
Bien, au départ, ça fait quand même longtemps que je suis dans l'organisation. Là, je suis arrivé ici au début des années 90.
OK.
C'est l'amour qui m'a amené à l'accès parce que je suis originaire du Saguenay. Là, alors, un gars d'Arvida. Alors, on dit que les gens d'Arvida, on a une appartenance assez importante. On ne dit pas Jonquière, on ne dit pas Saguenay. On dit Arvida, comme j'ai quitté depuis quand même longtemps. Là. Alors, donc, je suis natif du Saguenay. Et puis, alors, je suis arrivé ici, justement, là, parce que ma conjointe... a obtenu un poste, là, c'est une fille de Normandin, puis qui a eu un poste dans son coin. Là. Alors, à ce moment-là, ben, c'est moi qui ai fait un pas. On va épargner le reste, parce que ça a été un petit peu compliqué, là, mais au départ, j'ai commencé à travailler à la polyvalente de Saint-Félicien.
Polyvalente
80 de Saint-Félicien comme enseignant.
Enseignant,
oui. Moi, j'étais en enseignement moral et religieux et en formation personnelle et sociale.
Mm-hmm.
Alors, j'ai fait ça pendant 6-7 ans. Et puis après ça, j'ai eu un poste de directeur adjoint. J'étais directeur de l'école pour 3 ans, directeur de l'école pendant 15 ans. Alors, on a décollé le programme d'éducation internationale. On a développé aussi le service pour les élèves qui avaient des besoins particuliers à l'école pendant toutes ces années-là. Et puis après ça, donc après 15 ans, j'ai été 3 ans et demi en formation professionnelle. Alors, un autre défi juste avant la direction générale. Donc, j'ai fait 3 ans et demi en formation professionnelle. J'ai adoré vraiment aussi cette expérience-là. Complètement quelque chose d'autre.
Mais oui.
Et puis après ça, ben, depuis l'année passée, la direction générale. Mais ça m'a permis aussi de connaître justement la réalité du secteur, ce qu'on appelle nous le secteur jeune, le secondaire particulièrement, puis de connaître aussi le monde des adultes. Là. Puis, avec des bons défis aussi, il y avait quand même une baisse de clientèle importante au niveau de la formation professionnelle. Il y avait des efforts qui avaient été commencés, que moi j'ai poursuivis, puis ce qu'on appelle individualiser les programmes là, pour être capable d'entrer... à peu près n'importe quand dans plusieurs programmes, dans la quasi-totalité des programmes. Alors, on a fait ce travail-là là, avec l'équipe qui est en place. Alors, c'est un peu mon parcours comme ça. Donc, je suis ici depuis quand même un bon petit moment, là, et très heureux.
Oui, ça fait plusieurs années, dans le fond, que vous êtes dans le... Bien, qui était d'abord la commission scolaire.
Oui, j'ai connu, oui, effectivement. Moi, j'ai connu les quelques années de la commission scolaire. Mm-hmm. J'ai même connu Lavallière, à l'époque, là, qui était celle de Saint-Félicien. Puis après ça, le regroupement avec le Pays des Bleuets en 97. Quelque part par là, 97, 98, là, pas trop là, exactement les années, mais c'est dans ce coin-là.
Mm-hmm. Fait que vous en avez vécu plusieurs des changements.
Oui, tout à fait, en éducation. Et puis de voir aussi la transformation aussi des besoins chez des élèves. Hein. On a eu des années là, difficiles là, qu'on a appelées des années de restriction, des années d'austérité. Et après ça, ben, quand même, où les gouvernements ont décidé de réinvestir quand même un peu, de donner un meilleur support aux élèves. Alors, j'ai vécu... Mais juste pour dire, j'ai vécu quand même une époque où, à ce moment-là, il y avait plus de... Puis j'ai vu aussi la diminution entre... Quand moi, je suis arrivé, on était autour... Si on prenait les 4 commissions scolaires, là, on était plus de 12 000... Alors que maintenant, au secteur jeune, et maintenant, on est rendu 6 800 élèves. Donc, ça veut dire qu'on a baissé énormément. On a vu des polyvalentes. Là. Moi, je regarde à Saint-Félicien, j'ai commencé à presque 1 100 élèves comme directeur. Et pour finir à la fin, là, autour de 800. Là. Alors, c'est 300. Bien, puis, toutes les autres polyvalentes, tout le secteur ici, là, Jean Delbeau, Deschutes, tout le monde, les polyvalentes de Normandin ont vécu exactement la même réalité. Là. Alors, ça a été toutes ces périodes-là qu'on a traversées là, au cours des années.
Donc, je pense que quand on est d'abord directeur d'école et ensuite directeur de centre de services scolaires, il faut être assez résilient par rapport au changement. On ne sait jamais trop qu'est-ce qui s'en vient. Puis toutes les années sont différentes.
Oui, bien, c'est différent. Et puis, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les attentes sont plus élevées, tu sais, en général, là, envers le monde de l'éducation. Et ça, c'est intéressant parce que, bon, les parents, quand les attentes sont élevées, ça veut dire donc que les parents sont conscients des enjeux. Ça veut dire que de recevoir une bonne éducation, puis je dirais d'avoir des chances un peu à la maison et aussi dans les milieux scolaires. Donc, ça va permettre justement de s'assurer un avenir plus intéressant ou un avenir plus prometteur. Alors les parents sont conscients. Mais en même temps, ces attentes-là mettent aussi souvent de la pression aussi sur les milieux. Alors ça, il faut... Puis l'importance du partenariat entre les familles, puis l'école et le centre de service est extrêmement important. Puis on se rend compte aussi au cours des années, puis on est en train justement de documenter un petit peu plus avec la pandémie, mais on avait commencé avant, là, la question de la vulnérabilité. On sait que le ministère a des indicateurs pour la défavorisation, des milieux plus défavorisés que d'autres. Des fois, ça varie un peu. La défavorisation, c'est déterminé par le revenu familial, mais aussi de la scolarité de la mère, ce qu'on appelle l'encadrement parental, les capacités d'encadrer les gens. Alors, il y a ces facteurs-là. Donc, nos milieux évoluent là-dessus. Puis, ce qu'on se rend compte, ce qu'il ne faut jamais lâcher, c'est qu'on a quand même, que ce soit dans des écoles défavorisées ou même dans les autres écoles, des zones de vulnérabilité là, chez plusieurs élèves qu'on observe et qui font qu'on a l'impression, parfois, puis c'est ça qu'on veut mieux documenter, que ceux qui ont toutes les chances, tu sais, au niveau familial, au niveau des opportunités, des cours et ça. Il y a des gens des jeunes qui ont beaucoup de chance et il y en a d'autres qui en ont moins. Et nous, justement, le rôle de l'école, c'est de contrer ça et d'essayer d'égaliser ces chances-là pour que l'ensemble de nos élèves, peu importe leur d'où ils viennent, peu importe leur statut socio-économique, bien, soient capables d'avoir accès à, bien, premièrement, une diplomation, une qualification et de se donner aussi toute l'éducation qu'on fait aussi autour, là, prévention de violence, les habiletés sociales et tout ça, mais qu'on donne des chances égales un peu à tout le monde. Alors ça, c'est un défi extrêmement important. Et la pandémie, malheureusement, on va devoir redoubler d'efforts parce que ça doit accentuer ces écarts-là. On l'a vu, hein, c'est documenté de plus en plus.
Oui, de quelle manière, par exemple?
Bien, dans le sens de dire, ne serait-ce qu'au niveau du suivi de l'encadrement, quand des jeunes, bon, c'est sûr, on était quand même chanceux, il faut le dire, au centre de service puis dans l'ensemble des milieux, là. Si on compare, mettons, à des régions, à certains secteurs de Montréal et tout ça, où ils ont vraiment été plusieurs semaines, des fois, là, en enseignement à distance, parce que la pandémie, ils ont été en zone rouge là, beaucoup plus longtemps que nous autres. Alors ça, on a eu moins un peu ça, mais il reste qu'il y a quand même eu beaucoup de jeunes qui ont été isolés, quand je parle d'isolement pour la COVID ou les proches qui étaient touchés. Alors il y a eu beaucoup d'absentéisme. Les milieux ont été brassés aussi, dans le sens beaucoup, les milieux familiaux, hein, les parents qui doivent rester à la maison, qui soient en perte d'emploi ou en situation. Alors, c'est un peu dans cet esprit-là que ça accentue. Donc, il y a des parents qui avaient des outils, qui avaient des moyens davantage d'aider les élèves et d'autres chez qui c'était plus difficile. Alors, c'est pour ça que... Puis l'équipe, un peu avec mon prédécesseur, là, M. Ouellet, avait fait le choix aussi. Bon, j'étais directeur d'école, on s'est associé. Exemple ici, dans le centre de service, on n'a pas lésiné. On a vraiment même pris beaucoup de sous, là, qu'on avait. On n'avait pas des gros surplus, mais on a pris ce qu'on avait, on l'a pris beaucoup pour outiller chacun des jeunes. Donc, au moins, là, que ce ne soit pas, est-ce qu'à la maison, il y a un ordi? Est-ce qu'à la maison, le parent a des outils pour ça? Donc, depuis déjà plus qu'un an, chaque jeune a maintenant un outil, que ce soit du préscolaire, aller jusqu'à la fin du secondaire et même en FP adulte, les outils sont disponibles aussi. Donc, tout le monde a accès à un équipement. Fait que s'il va à la maison, au moins il va être capable de travailler. Alors, c'est des exemples un peu comme ça.
Bien oui, parce que pendant la pandémie, pas d'outils pour être en ligne. Ça voulait dire ne pas avoir d'école. Et ça a pu, tu sais, là, évidemment, vous avez pris les moyens là, pour que tout le monde puisse y avoir accès. Oui. Mais aussi, pendant la pandémie, ça a pu décourager certains étudiants. On pense entre autres aux jeunes du secondaire. C'était très difficile pour eux.
Oui, tout à fait. On s'aperçoit, là, parce qu'on a... On a recruté, d'ailleurs, c'est à l'intérieur de notre personnel, mais une personne, le ministère a mis en place un programme qui s'appelle un agent de liaison. Donc, un agent vraiment, un agent de persévérance, autrement dit. Et le rôle premier de cette personne-là, c'est d'établir des contacts, parce que c'est correct. T'sais, mettons, quand un jeune nous dit, bon, mais qu'il va quitter le secondaire, sans on comprend bien, là, sans être diplômé ou rien, pas complété, là, à partir de 16 ans et plus. Mais souvent, il va nous dire, bien, je vais aux adultes, mais est-ce que vraiment, là, des fois, on le suit un peu au départ, mais es-tu vraiment allé aux adultes? Est-ce qu'il y a de la rétention? en formation professionnelle. Tout ça. Alors, il y a des jeunes qui ont des projets comme ça, puis des fois, bien, ils tombent un petit peu dans le vide, si on veut, parce qu'on n'a pas les outils pour suivre un peu plus à long terme ou à moyen terme ces gens-là. Alors ça, ce poste d'agent de la persévérance, d'agent de liaison, va faire ce suivi-là des jeunes. Et on a quand même un certain nombre de jeunes, mais il y a des déménagements. On avait quand même une cinquantaine de départs. Il y a eu des déménagements, puis il y a des gens qui sont effectivement là, dans d'autres écoles, mais il y a quand même plusieurs personnes qui quittent à l'école. Et la situation économique actuellement, la pénurie de main-d'œuvre,
oui,
nous aide pas. Mm-hmm. Et ça, on le voyait aussi nous autres dans d'autres régions. Exemple, puis les téléspectateurs vont s'en rappeler qu'il n'y a pas longtemps, si tu voulais travailler chez Résolu, tu avais besoin d'un cinquième secondaire minimum, mais dans bien d'autres endroits, on demandait le cinquième secondaire qui était comme le passe-partout, là. Bien, alors que maintenant, les entreprises n'ont plus le luxe, maintenant, ils vont demander un troisième secondaire ou une formation minimale. Alors, le jeune qui quitte, puis les salaires ont augmenté.
Oui.
Alors, un jeune qui va sortir à 16, 17 ans, 18 ans, peut se trouver de l'emploi maintenant à 15 ans. Il n'y a pas longtemps, on rêvait du 15 $ de l'heure, là, alors que maintenant, même si ce n'est pas le salaire minimum, souvent dans la vraie vie, c'est un peu comme ça. Alors, donc, le jeune qui a plus de difficultés peut avoir accès à de l'emploi facilement, des nombres d'heures qu'il veut sans problème, des salaires quand même qui, à 16, 17 ans, peuvent apparaître intéressants. Alors, c'est aussi c'est des enjeux. On voyait, nous, quand on avait des rencontres nationales, d'autres écoles ou, excusez, d'autres organisations qui vivaient ça, entre autres, je pense, dans le centre du Québec et tout ça. Mais là, maintenant, c'est nous qui sommes touchés par ça. Fait que le défi est grand de dire aux jeunes, bon, bien oui, peut-être que ça va pas bien, puis tout ça, puis t'es découragé, puis la pandémie, tout ça, mais il faut pas que tu fasses des choix à court terme. Oui, c'est correct de travailler, mais en même temps, il faut aussi que tu penses un peu plus à l'avenir, bon, d'aller chercher un diplôme, d'aller chercher une qualification ou une diplomation, bien ça va t'aider à avoir une vie de qualité, puis avoir plus de choix aussi, parce qu'il va arriver des périodes de ralentissement économique ou...
Oui.
Plus difficile. Alors, c'est tout le travail qu'on a à faire là, actuellement.
C'est pas juste un papier non plus, un diplôme, c'est des connaissances, c'est des compétences, c'est l'acquisition d'expérience.
La série documentaire « Les artisans de la terre » présente en un clin d'œil le quotidien de 8 producteurs agricoles du nord du lac Saint-Jean dans la MRC de Maria Chapdelaine. Au fil des saisons, nous rencontrons ces artisans, des fois pour échanger, d'autres fois pour observer, et toujours pour admirer l'effort et la passion qui les habitent dans leur travail de la terre. Découvrez différentes productions agricoles d'une façon simple, sans artifice, mais qui sauront vous captiver et vous surprendre. L'agriculture dans ce qu'elle a de plus vrai, authentique et grandiose.
J'ai rencontré dernièrement des gens du CFP, du Pays des Bleuets, justement, là, qui me parlaient du programme de reconnaissance des acquis. Là aussi, on y va pour aller chercher des gens qui sont peut-être déjà sur le marché du travail.
Bien, effectivement, puis qui, justement, sont un peu, ils ne sont pas prisonniers parce qu'actuellement, le marché est quand même avantageux, là, mais qui ont quand même moins d'outils de flexibilité pour faire des choix. Alors, parce que, tu sais, quelqu'un peut travailler dans une entreprise, bon, bien, qui reconnaît ta compétence, mais si tu déménages ou si tu as envie d'aller travailler ailleurs, bien, c'est des fois, ce que tu as développé, tu n'as pas de preuve ou d'attestation qui confirme que tu as ça. Alors, c'est l'idée aussi que, de plus en plus en éducation, on dit qu'on doit au moins, au minimum, tu sais, avant on parlait d'aller à l'école jusqu'à 16 ans il y a longtemps, mais bon, évidemment, c'est un seuil minimum, alors qu'on dit de plus en plus que même si la loi n'a pas changé, qu'aujourd'hui, il faut être en formation, se donner des outils solides au moins jusqu'à 18, 19, 20 ans, d'être en formation pour aller chercher justement, là, que ce soit au niveau du diplôme des secondaires 5, ça, ce qui est pour nous, bien, les qualifications, mais entre autres le cégep et l'université ou le BEP, là, pour ceux qui font un choix comme ça. Alors, il y a comme une espèce de paradoxe où, en même temps, le marché du travail tire un peu pour avoir des gens rapidement.
Ouais.
Puis nous qui disons à quelque part, bien, écoutez, la qualité de la formation, la qualité du développement des compétences sera toujours un enjeu important. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toutes sortes de modalités là, qui se développe un peu. Puis vous l'avez mentionné tantôt, la reconnaissance d'acquis, des formations un peu plus brèves qui vont être offertes aussi. Alors, les choses évoluent rapidement.
Oui, puis tu sais, aussi garder les étudiants à l'école, que ce soit au secondaire ou même des fois au cégep, c'est d'avoir tout ce qui englobe les cours. Parce que tu sais, oui, il y a les cours, mais bon, il y a tout le côté social de l'école, les activités parascolaires, le sport, toutes des choses qui nous ont été pendant un bout de temps un peu enlevées hein, avec la pandémie et que là, on ramène là, de plus en plus. Et c'est extrêmement important.
Et c'est tellement important ce que vous mentionnez là, parce que c'est effectivement, parce que souvent, on l'oublie un peu des fois comme adulte, mais quand on se rappelle nous, lorsqu'on était plus jeune, tu sais, quand les sports, quelqu'un qui aime les activités artistiques, qui aime les sports, comment ce sont des sources de motivation, même si ce n'est pas tant d'heures par semaine, il y en a évidemment qui s'impliquent beaucoup, là, mais il y en a que juste peut-être les deux pratiques, puis les deux matchs, ou tu sais, ces choses-là, ça vient donner un sens, ça donne une motivation supplémentaire. Et ça, effectivement, ça a été hypothéqué. Mais là, on est vraiment, même depuis le début de l'année, quand même en reprise là, d'activité. Mais en même temps, il y a des jeunes aussi qui avaient un peu décroché, puis qu'on dirait qu'ils ont la difficulté à reprendre le rythme un peu là-dedans. Mais on s'aperçoit quand même que depuis le début de l'année, là, on a une espèce de crescendo. Là, les jeunes commencent à se réimpliquer et à se réinvestir dans leurs engagements.
Oui, parce que, tu sais, ça a l'air d'avoir passé vite 2 ans, mais 2 ans dans un parcours scolaire, 2 ans quand tu as de 14 à 16 ans, c'est une grosse différence quand même. Donc, peut-être que les intérêts changent ou on a justement plus de misère à aller chercher la motivation là, de ces étudiants.
Oui, puis entre autres dans les transitions, hein, quand on fait la transition, mettons, du primaire au secondaire.
Oui.
Donc, ceux qui ont fait, tu sais, 6e année en pandémie puis avec l'accueil en secondaire 1, ils n'ont pas eu ils ont eu plusieurs obstacles qui sont un peu plus sur leur parcours. Même chose, on entendait parler de ceux qui ont complété, mettons, qui sont allés vers le cégep, vers l'AFP. Transition, mettons, tu n'as pas eu ton bal définissant, tu n'as pas eu un 5e secondaire. Tu arrives au cégep, c'est en ligne. Alors, ça a bouleversé beaucoup de personnes là-dedans. Alors, en tout cas, là, on espère hein, qu'on s'en va tranquillement vers là. Mais ça nous oblige, nous, on a, nous, ce qu'on appelle avant, ça s'appelait la planification stratégique. Maintenant, ça s'appelle le PEVR, donc le plan d'engagement vers la réussite.
Mm-hmm.
Puis après ça, les écoles ont chacun un projet éducatif. C'est tout à rimer ensemble, si on veut. Et puis là, vraiment, on est dans un... On est en train d'évaluer celui là, qui était 2018, puis 2022, là, si on veut. Il a été prolongé d'ailleurs d'un an, là. Là-dessus. Mais là, il faut nous déposer à partir de l'année prochaine. Et c'est beaucoup dans un esprit de relance, exactement ce qu'on disait tantôt. Donc, ça veut dire, bien oui, on a des cibles en termes d'acquisition de compétences en lecture, d'acquisition de diplomation, qualification, les garçons, les milieux défavorisés, tout ça. Mais il faut vraiment le faire dans une optique. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il faut mieux documenter nos vulnérabilités, arrimer nos services d'aide, l'encadrement, juste l'exigence de l'absence. C'est pendant un bout de temps. C'est comme si, pas juste chez nous, mais partout, le fait d'être absent, bien, écoute, tu es déjà absent une semaine pour être isolé ou confiné, bien, c'est-tu si grave que ça que de s'absenter? Alors, il faut ramener l'importance de la présence. Et tout ça. Donc, tout ça pour dire qu'on va consolider l'ensemble des éléments de notre... on va être en continuité avec notre plan d'engagement vers la réussite, mais dans un esprit, justement, de redonner un second élan puis d'apporter une attention aux élèves qui ont été un peu... hypothéqués ou qui ont payé un petit peu le prix plus cher là, de la pandémie.
Oui, depuis tantôt, on parle justement de l'impact de la pandémie sur les élèves, mais il y a aussi le personnel qui a été énormément impacté par ces années-là.
Bien, tout à fait. Et puis on a l'occasion de le redire. Je sais que dans les milieux, puis dans toutes nos communications, on le fait. En remerciement, on a fait une capsule même un peu pour documenter notre situation de la main-d'œuvre. Mais les gens dans toutes les catégories d'emploi, les enseignants qui au quotidien vivent avec, ont eu à s'adapter, cours en ligne, ces choses-là, d'avoir des fois, il manque 5 élèves, il en manque 4, il en manque 6, il faut faire un rattrapage, il faut s'assurer que le collègue qui les suit. Alors, toute cette... Et en plus, dans une situation de pénurie où tu dois faire des fois ce qu'on appelle de la suppléance un peu. Là, nous, on n'a pas du TSO, là, du temps supplémentaire obligatoire, mais on a une forme qui s'appelle... Il y a des périodes de dépannage, mais il y a aussi de la suppléance volontaire. Mais il y a beaucoup de collègues qui doivent en plus aller aider, remplacer dans d'autres groupes ou dans des périodes libres. Pendant ce temps-là, tu as moins de temps pour ta correction, il faut que tu la fasses le soir, alors tout ça. Et dans toutes les catégories d'emploi professionnel, l'équipe psychosociale qui est extrêmement sollicitée actuellement, en raison des besoins qu'on connaît, puis du fait que le réseau de la santé est aussi hypothéqué que nous. Alors, tous les services psychosociaux, les directions d'école qui doivent rentrer tôt le matin et sortir plus tard le soir pour gérer tout ce qu'il y a au travers de la pandémie et de la gestion des mesures sanitaires. Ça a été une période, c'est une période extrêmement exigeante qu'on vit. Et on ne le dira jamais assez à quel point là, on est reconnaissant envers tous les employés là, du centre de service, parce qu'on a quand même 1500 personnes hein,
oui.
au centre de service. Des fois, on l'oublie à quel point c'est un gros employeur là, dans le secteur.
Mais, tout à fait.
Puis les gens des services de garde, hein, des services de garde qui ont beaucoup augmenté en termes de clientèle depuis quelques années.
Oui.
Alors, tout le monde est sollicité là, partout. Alors, puis tout le monde vit ses réalités. On est des parents, on est des gens. Fait que,
Mais oui, parce que je me souviens, quand moi, j'étais au secondaire, prête à choisir ma carrière, on nous disait quasiment, aller étudier pour être prof, il va y avoir une liste d'attente, puis il va falloir que tu ailles faire ton stage à l'autre bout du Québec. Puis il y avait tellement de monde qui voulait aller devenir enseignant. Puis aujourd'hui, on en cherche. Il y a eu quand même un peu d'années un contexte qui a fait en sorte que ça a changé.
Puis rapidement, hein, c'est
oui.
ça qui est surprenant. Moi, j'ai toujours donné deux cours par année qui s'appelaient éthique et enseignement à l'UQAM.
Okay.
Alors, le soir. Là. Et puis j'avais des étudiants en enseignement. Alors, c'est entre autres, depuis plusieurs années, c'est le seul cours que je donnais mm-hmm. parce que c'était pour des jeunes. Puis je trouvais ça intéressant de garder en contact avec la
oui.
Puis j'ai eu, entre autres, moi, j'avais des étudiants en éducation physique,
okay.
en activité physique, là, qui se préparaient à être prof d'éducation physique. Puis des fois, j'en avais 40-50 dans une classe hein, de la région. Là. Puis je me disais, là, bien, tu sais, est-ce que vous pensez le parcours du combattant que vous allez avoir avant d'avoir du travail? Puis tu sais, en éducation physique, il y en a un ou deux par école primaire.
Ouais.
Au secondaire, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas en français ou en maths, non?
Mm-hmm.
Alors, je me disais, dans le sens de dire, puis tu sais, des passionnés d'éducation physique comme ça, puis je disais, mon Dieu, peut-être bien que vous allez faire des parcours dans d'autres matières un peu ou dans d'autres disciplines. Puis actuellement, même nos listes en éducation, quand tu dis que la liste d'éducation physique est aussi vide, là. Alors, mm-hmm. ça montre l'ampleur du qui était peut-être le champ où ça allait le plus lentement à une certaine
ouais.
époque. Là. Alors, ça traduit effectivement. Puis nous, mais on a aussi des obstacles supplémentaires.
Okay.
Puis moi, je le disais souvent, on n'avait pas l'impression ici, en tout cas au niveau de l'enseignement, pour ce que tu mentionnais tout à l'heure, là, dans le sens de dire il y avait des listes d'attente, les mm-hmm. gens savaient. Donc, on ne se sentait pas tant que ça en région éloignée.
Mm-hmm.
Mais actuellement, étant donné que nous, c'est plus difficile que pour les étudiants qui veulent faire du remplacement, les étudiants d'éducation, apparemment, il n'y en a pas tant que ça.
Mm-hmm.
Deuxièmement, bien souvent, ils vont faire du remplacement au Saguenay parce que c'est plus proche, parce qu'ils sont à l'université. Il y en
ouais.
a quelques-uns qui viennent, donc on est plus loin de l'université. Puis après ça, puis deuxièmement, bien aussi, ce que ça nous prend, c'est, oui, ça nous prend des gens à poste, mais ça nous prend aussi des gens qui vont remplacer quand on a des formations, quand on a des gens
oui.
qui s'absentent pour des maladies. Et c'est ça, actuellement, qu'on a plus. On manque de personnes, puis en plus, on n'a pas de listes de réserve, de listes de priorités d'embauche, toutes nos listes partout sont à peu près vides actuellement.
Mmh, c'est ça. Puis là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? T'sais, c'est quoi la prochaine étape?
Bien, ce qu'on fait, là, premièrement, on a au niveau des ressources humaines, puis dans les écoles partout, parce que ça travaille en synergie, là, les secrétaires, les directions d'école qui recrutent comme ça.
Mmh.
Présentement, on est dans le département des miracles.
Ouais.
Le département des miracles, ça veut dire qu'on a quand même des gens qui vont donner un coup de main. Bon, on a des enseignants non légalement qualifiés qui viennent nous donner un coup de main.
Mm-hmm.
Dont généralement, ils ont des bacs, ils ont quand même des compétences
oui.
disciplinaires, mais ils n'ont pas la pédagogie. Donc, ils viennent nous donner un coup de main. On a aussi, du côté des TES, on a des fois des gens du service de garde qui ont des cours de service de garde qui vont venir aider dans les classes. Donc, tout le monde donne un coup de main. Il y a des personnes aussi à qui ça donne du travail de plus. Donc, mettons, en service de garde, bien, ça leur permet d'avoir des heures supplémentaires.
Oui.
Mais ça fait aussi toute une gestion. Bien, un bout de service de garde, un bout dans les classes, un bout de surveillance, un bout de...
Mmh.
Alors, vraiment, actuellement, là, tout le monde, autrement dit, met la main à la pâte, mais on trouve toutes sortes de solutions. Mais, effectivement, on a d'ailleurs mieux documenté ça le printemps passé. Après que je suis arrivé un petit peu, je voulais qu'on fasse un peu plus de projection vers l'avenir. Mais d'ici 2025, on a au moins 20 % de nos personnes, au minimum 20 % qui prennent leur retraite. Et jusqu'à 2030, ça peut aller jusqu'à entre 30 et 40 %. Et 2030, c'est pas si loin, là.
Non.
Alors
ouais.
là, ça veut dire que Là, il faut vraiment, premièrement, travailler. Là, on a vraiment un comité, on a même une professionnelle qu'on a engagée au niveau de la rétention, de l'attraction. Mm-hmm. On a fait des sondages auprès de nos gens, dans le sens de dire sur la qualité un peu, qu'est-ce que vous voyez comme possibilité de manière, premièrement, de vous garder motivé puis de vous garder intéressé au travail. Mm-hmm. Puis, deuxièmement, aussi, de nous aider, tout le monde ensemble, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de gens qui sont allés, quand même, dans l'époque qu'on mentionnait tantôt, plus difficile, qui sont allés travailler dans les régions où il y avait plus d'emplois.
Oui.
Donc, on a beaucoup de d'hommes et de femmes du lac Saint-Jean qui seraient peut-être intéressés dans une deuxième partie de carrière à revenir chez nous. On en a quand même quelques-uns par année qui reviennent. Deuxièmement, bien, il va falloir aller un peu du côté du recrutement international.
Okay.
Mais en même temps, le recrutement international, on va faire d'ailleurs une expérience plus formelle, là, parce qu'on avait quelques demandes volontaires qu'on acceptait. On veut recruter quand même là, des personnes, deux psychologues, parce que entre autres, les psychologues, c'est difficile, deux psychologues, des profs en anglais, en maths sciences et en adaptation scolaire. Alors, on va aller là, cet été là, en visite virtuelle puis en visite en France pour essayer de recruter 8 personnes, là, au minimum 8 personnes. Qui vont venir nous donner un coup de main. Donc, est-ce que chaque année, ça va être une solution de plusieurs facettes, là. Mm-hmm. Donc, recruter à l'international, des gens qui reviennent, des gens qui prolongent leur carrière, des retraités qui acceptent au moins de faire un peu de suppléance. Alors, c'est un panier, autrement dit, de moyens qu'on va essayer de trouver pour répondre à ce besoin-là. Puis en espérant aussi qu'on ait des jeunes, puis ça, on va faire une promotion auprès de nos jeunes aussi, qui reviennent, qui aillent en éducation.
Oui.
C'est ça.
Mais c'est ça, hein, ça a eu tellement longtemps la réputation d'être un domaine contingenté.
Oui. Puis il y a aussi quand même, le gouvernement fait quand même, entre autres pour les enseignants, puis les professionnels un peu aussi, mais les enseignants, des ajustements salariaux importants, ce qui fait que maintenant même, ça peut être au niveau même financièrement intéressant d'être enseignant.
Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler de tous ces enjeux-là. Clairement, de nombreux défis encore pour l'année à venir. Je vous souhaite que ça se passe du mieux possible. On continue on peut suivre, en fait, là, si on veut rester informé des activités du Centre de services scolaires, la page Facebook.
Oui, le site et la page Facebook. Et effectivement, puis on va être de plus en plus, je dirais, proche de la population pour informer les gens sur nos enjeux.
Bien, merci beaucoup, M. Boivin.
Okay, merci.
Et merci à vous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre accès. Merci.